Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
Mario Dumont.
Cube Radio.
Alors, Carl, revue des principales nouvelles du jour. D'abord, le bilan de la COVID-19.
68 décès qui s'ajoutent, Mario, donc pour un total de 12 193 personnes qui ont perdu la vie depuis le début de la pandémie au Québec. 3 085 personnes à l'hôpital en hospitalisation, une augmentation de 91, dont 275 aux soins intensifs, donc 442 entrées et 351 sorties. On a eu une mise à jour donc sur le retour en classe lundi. Il y a un protocole qui se complique. Les élèves devront notamment passer par une série de tests de dépistage négatifs avant de pouvoir retourner en classe. Et puis, l'Agence de santé publique du Canada nous dit, et ça peut être encourageant, qu'on va assister à une chute des cas au Québec et en Ontario. On constate que le taux de contagion se stabilise dans les deux provinces. Alors, on devrait voir la maladie descendre un peu au Québec et en Ontario au cours des prochaines semaines.
Espérons-le. Sur le plateau Mont-Royal, consternation après c'est drôle à dire, le premier meurtre de l'année sur le territoire de Montréal, mais c'est le meurtre d'un mineur, c'est le meurtre d'un ado.
Oui, de 17 ans, Amir Benayad, qui a été tué hier soir dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, a été atteint par balle. C'est le premier homicide de l'année, mais c'est le quatrième d'un adolescent dans la dernière année à Montréal. On rappelle les cas de Myriam Bendawi, Janaï Dupuel-Bailey et Thomas Trudel, là, 15, 16 et 16 ans, qui ont perdu la vie l'année dernière. Il y a une témoin qui dit avoir vu au moins trois suspects prendre la fuite dans une ruelle derrière chez elle. Un autre témoin qui dit avoir entendu au moins quatre coups de feu. La mairesse Valérie Plante a offert ses condoléances à la famille, puis assuré que le SPVM surveillait l'affaire de près. Puis à l'hôtel de ville de Montréal, l'opposition dit, ils sont où les 250 policiers que Valérie Plante a promis d'embaucher? C'est une promesse électorale, mais on sait maintenant que ces 250 ouais. policiers-là vont aller à remplacer des effectifs qui vont partir à la retraite.
Mais ça devient, pas faire de parallèle niaiseux, là, mais tu sais, on faisait des farces hier avec Jean-François Barry sur le fait que le coach du Canadien, Dominique Ducharme, là, quand tu perds tous les soirs son point de presse, ça devient répétitif.
Ouais.
Mais il y a un peu de ça, là, la pauvre Valérie Plante. Tu sais, quand, arme à feu, des jeunes, des circonstances semblables, de dire à chaque fois, puis je dis pas que c'est de sa faute, là, mais dire à chaque fois les mêmes phrases, c'est épouvantable, ça devrait pas arriver. Ouais, ça devrait pas arriver, mais le fait est que ça arrive, là. Et
puis c'est tellement complexe maintenant quand tu sais qu'une imprimante 3D peut servir à produire une arme, que tu peux t'en faire livrer en pièces détachées par la poste des États-Unis. Ouais. Tu sais, au-delà de, puis qu'est-ce que les policiers peuvent faire aussi? Tu sais, on peut pas arrêter tous les colis qui rentrent au Canada. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Puis en effet, Mané, au-delà de dire les condoléances, comment on peut agir? Ça, c'est toute une question.
C'est ça le défi, ouais. Une explosion à Ottawa, on savait que c'était produit, un incendie après hier, mais c'est ce matin que les informations ont commencé à sortir sur la gravité du point de vue des vies humaines.
Un décès qui a été confirmé après l'explosion chez Eastway Tank. Ça, c'est une entreprise qui produit des camions citernes, Mario, donc qui vont transporter, par exemple, du mazout ou de l'essence. Là. Un décès qui a été confirmé ce matin, un autre travailleur qui est dans un état critique et cinq personnes qui manquent toujours à l'appel. Mais les autorités ont dit aux familles, écoutez, on se fait pas trop d'illusions. Là. Il y a très, très peu de chances qu'on retrouve ces personnes-là en vie. Quatre hommes et une femme. Et il y a la conjointe d'un des travailleurs qui manque à l'appel, Richard Bastien, qui s'est confié à TVA Nouvelles en disant, écoutez, mon conjoint craignait chaque jour d'aller au travail, me disait-il. Il y avait donc des craintes en matière de santé et sécurité. Évidemment, l'enquête est toujours en cours, mais une explosion assez violente, puis un incendie assez violent.
Les images de l'hélicoptère TVA, les images vues du ciel sont assez spectaculaires sur à quel point il y a toute une section du bâtiment qui a été soufflée, là.
Oui, oui. Puis c'est ça. Évidemment, tant qu'on n'a pas confirmation, d'habitude, les autorités vont pas confirmer les décès tant qu'ils sont vraiment pas certains hors de tout doute, mais dans un événement pareil, évidemment, là, la chance de retrouver des survivants est assez mince.
Mais on comprend que c'est assez épouvantable parce que on retrouve pas les survivants, mais on trouve pas les corps des défunts non plus.
Ben c'est ça. Qui
ça. On cherche vraiment des traces là, qui permettent de confirmer le décès. Ça rappelle l'incendie dans une résidence de personnes âgées dans mon coin à l'île verte, là où on les gens fouillaient dans les décombres pour trouver un petit morceau.
J'étais là, Mario. Je suis allé à l'île verte, puis c'était ma foi. Un événement là, assez troublant, puis il y avait à travers tout ça aussi une grande solidarité dans la communauté, puis il y avait rapidement aussi un écœurement de la meute de journalistes qui s'était pointé là à l'époque. On comprend les gens là,
t'sais. Ouais, dans une petite place, mais en même temps la meute de journalistes, c'est aussi le reflet d'une société qui
il y avait beaucoup de
qui a à cœur ce qui s'est passé là, puis qui veut savoir, mais c'est un peu un travail normal. Le salaire minimum qui va augmenter chaque année maintenant. Là, autrefois, on faisait ça n'importe quand dans l'année. Maintenant, on a mis ça le jour, ça fait plusieurs années, c'est toujours le jour de la fête des travailleurs, le 1er mai.
C'est également ma fête, Mario, mais c'est anecdotique.
On pourrait dire à nos patrons qu'ils te remettent au salaire minimum, comme ça te fera un cadeau de fête.
Tu as déjà fait la suggestion en ondes, je t'inviterai à ne plus la faire ensuite. Alors, le salaire minimum qui atteindra 14,25 $ en augmentation de 75 cents le 1er mai.
C'est une augmentation. Tu n'aimes pas ma suggestion.
Ben, tu vois, tu lis bien ma réaction, Mario. Okay, tu lis bien, faut te donner ça.
Je retire mes paroles, comme j'ai fait quelquefois à l'Assemblée nationale.
Bon. Ben, c'est moins, en tout cas, je veux pas dire que tu as dit des choses trop offensantes à l'Assemblée nationale, mais bon, augmentation de 5,56% donc au cours de l'exercice 2022-2023. Ministre du Travail, Jean Boulet, qui dit, ben, avec ça, on arrive à un salaire minimum qui est à 50% du salaire moyen au Québec. Le salaire à pourboire, lui, qui passe à 11,40 $. La FCEI dit, bon, ben, c'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, dit, ben, c'est mieux que d'avoir passé à 18 $ de l'heure, mais on aimerait quand même avoir des mesures d'allègement fiscaux sur la masse salariale pour aider les petites entreprises à passer à travers ça.
Le manque de marchandises, on a déjà des problèmes d'approvisionnement, on est limite dans certains cas, dernière minute, mais là, on va avoir quelques camionneurs en moins, et ça aidera pas la situation.
Ben d'abord, l'exemption de vaccination obligatoire pour les camionneurs va être levée en fin de semaine. Les camionneurs qui font du transport international entre le Canada et les États-Unis, ça fait craindre le pire à plusieurs, dont Manufacturier et Exportateur Québec qui dit qu'on va manquer de marchandises. Puis, on se rappelle là, quand le Québec a été mis sur pause et que le manufacturier s'est arrêté, ben les tablettes se sont vidées assez vite. Et puis, on en ressent encore le manque aujourd'hui. Il y a certains matériaux qui sont pas revenus en quantité intéressante. Ben ça va se poursuivre. La PDG de Manufacturier Exportateur du Québec, Véronique Proulx, dit, écoutez, on a assisté également à un taux d'absentéisme record dans plusieurs industries dans les dernières semaines. Il y en a même qui sont passés près de devoir fermer des lignes de production. Et même chez IKEA, il manque un quart de l'inventaire, Mario. Alors, faut falloir se faire à l'idée qu'on n'aura peut-être pas tout ce qu'on veut quand on le veut au cours de la prochaine année.
Mesures sanitaires, celui qui est devenu, bon, pour certains, c'est carrément des bouffonneries. Pour d'autres, il est un héros. Pour d'autres, un pauvre type perdu. Toujours est-il qu'il en a fait des manifestations illégales, une et une autre. Il a collectionné les contraventions à coups de dizaines de milliers de dollars. Mais là, il a obtenu une 7e condamnation, M. Bitondo.
Ouais, 7e et 8e aujourd'hui.
7e et 8e, OK.
Ouais, il y en a une 8e, là, c'est parce qu'il repassait au palais de justice cet après-midi, donc ça a pris des proportions. La 7e, c'est pour ne pas avoir respecté le couvre-feu qui était en vigueur dernièrement, qui prend fin lundi, en fait, qui est toujours en vigueur à l'heure où on se parle, c'est vrai. Et une amende de 1 500 $, 1 000 $ plus les frais. M. Bitondo qui a pas voulu, Amalega Bitondo qui a pas voulu se rendre au palais de justice aujourd'hui, on sait que lui veut pas porter le masque. Ben là, les juges, ils ont dit, écoutez, vous auriez pu comparaître par Teams. Il y en a plusieurs qui le font. Puis là, bon, M. Bitondo qui veut pas payer, il dit, pour moi, c'est pas une option. La prison serait l'idéal, mais il se dit ouvert malgré tout à faire des travaux communautaires. L'idéal, selon lui, ce serait qu'il aille enseigner aux enfants. Je pense que ça arrivera pas.
On va sauter un tour.
Ben peut-être qu'on va lui envoyer, on va l'envoyer, je sais pas, peut-être nettoyer certains arrondissements de la ville de Montréal avant d'aller enseigner aux enfants là. Puis c'est ça, sa 8e condamnation, c'est relié au non-respect du couvre-feu l'année dernière en 2021.
Mais donc il y a pas des revenus pour payer ça, parce que moi c'est une chose que j'avoue quand j'en parle souvent de lui avec Vincent, c'est une chose dont je m'étais inquiété publiquement. Je me disais, c'est un monsieur qui a quand même l'air alors avoir beaucoup de temps là, tu sais, il est dans des manifestations le midi, l'après-midi, oui, le soir, le matin. Puis je me disais, mon Dieu, que ça serait donc dans une période de pénurie de main-d'œuvre, serait donc du beau temps, ça, pour aller gagner sa vie, faire un travail, payer des impôts, plutôt de faire le zouave.
Mais,
je sais bien que j'ai des vieilles idées, là, des vieilles pensées que j'exprime.
Tes inquiétudes sont quand même assez légitimes, parce que la facture augmente, hein, dans le cas de François Maléga. Mario, Maléga, oui, il est rendu à 60 000 $ d'amende.
Ce qui est une joke, là. Ce qui est une joke quand tu sais que tu la payeras pas, là.
Ben non, c'est ça. Puis on l'a vu dernièrement, il y a des cas de contrebande de tabac, là. Il y a des gens qui se retrouvent à avoir une entente avec le percepteur de l'État des amendes, là, puis qui peuvent payer sur 150 ans ou quelque chose comme ça. On s'entend bien que les gens vont pas vivre 150 ans à 37 $ par année.
Ils ne payeront jamais.
Voilà.
Et finalement, ben, l'imposition du passeport vaccinal aux grandes surfaces, c'est peut-être quelque chose que, en tout cas, moi, je l'avais pas vu à prime abord, mais il y a même des librairies qui ont 1500 mètres carrés et plus. Il y a des librairies qui ont ça.
Oui, Renaud Bré qui s'oppose à l'imposition du passeport vaccinal pour les grandes surfaces. Ça s'ajoute à l'Association québécoise des détaillants de matériaux de construction. Donc, le patron de Blaise Renaud, dit, écoutez, nous, nos magasins sont assez grands pour favoriser la distanciation sociale. On dit également que ça va favoriser justement les petites librairies. Ben là, je pense que malgré tout, le réseau de Renaud Bré est assez fort, là, mais voilà. Puis les détaillants de grandes surfaces dans la construction, eux, les quincailliers, disent, ben, on se sent un peu infantilisé par le gouvernement Legault, puis on croit que les personnes non vaccinées vont se ramasser dans des petits commerces et que le risque de contagion, il sera supérieur, mais c'est une mesure, évidemment, qui n'est pas tant pour freiner la pandémie que pour tanner les gens qui n'ont pas obtenu le vaccin encore.
Mais il y a un journaliste des sports, de la presse, qui faisait remarquer cet après-midi sur Twitter que quand on regarde l'orthographe de certains... Quand on regarde l'orthographe de certains anti-vaccins qui nous écrivent des insultes, c'est pas clair qu'ils sont là. Pas clair qu'ils sont des si gros clients de Renaud Bré au quotidien. J'avoue que ça m'a fait sourire un peu.
C'est pas une mauvaise observation.
Petite observation comme ça. Carl, merci, bonne fin de semaine.
Bon week-end, Mario. Au revoir.